as la liturgie, oui. Ça y est, c'est bon. Très bien.
Bon. Bonjour madame la pasteur.
Bonjour, comment tu vas?
Ça va mieux, on va dire, mais c'est pas clair.
Bon, toujours pas.
Bah, et il te trouve. Si, non, ça mais... va mieux, mais j'ai mal. Puis j'ai d'autres problèmes, j'ai
Et puis alors quand on commence à prendre des médicaments.
Je suis vraiment contrarié avec la sécu.
Ah. Ben là.
Ah oui, je me suis fait avoir. Hein.
Oui, alors peut-être que tu es tombé sur un fraudeur. Hein, tu sais, en ce moment.
Oui,
en ce moment.
Oui, c'est un fraude. J'ai 20 séances sur
Bonjour Michel. Bien sûr, c'est bien. Attends Michel, je vais commencer le culte, il faut vraiment que je me concentre. Merci, merci, t'es gentil. Thank you.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici ce matin. Peut-être avez-vous eu crainte d'arriver en retard avec les festivités qui se passent en ce moment même à Paris et qui bousculent un peu nos habitudes dans les rues de Paris. Mais en tout cas, nous sommes là ensemble et nous sommes là aussi avec celles et ceux qui sont chez eux en ce moment et qui nous regardent et qui sont en communion avec nous. Nous sommes réunis dans ce même esprit et je voudrais ce matin saluer avec beaucoup de joie la réouverture de ce monument merveilleux qu'est Notre-Dame de Paris. C'est un moment extrêmement important pour notre ville et c'est un bien commun de notre culture qui apporte à nouveau sa beauté et je pense qu'il faut que nous nous réjouissions avec toutes celles et ceux qui se réjouissent en ce moment même dans ce lieu. Je vous invite, alors ce matin nous allons avoir ici un moment très particulier et très important puisque nous aurons la joie de partager un moment avec une personne qui a demandé le baptême et c'est François qui est avec nous avec sa famille et je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous dans ce lieu pour pouvoir partager ce moment si important dans une vie de recevoir le baptême. Je vous invite à chanter le premier répond qui se trouve au début des psautiers. Réjouissons-nous au Seigneur. Et ce matin, j'ai choisi comme louange à partager avec vous l'hymne de Marie au début des évangiles. Et Marie dit « Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de sa servante. Désormais, en effet, chaque génération me dira « Heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses ». Son nom est sacré et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône et élever les humbles, rassasier de bien les affamés, renvoyer les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Je vous invite à chanter votre louange avec le cantique dans les louanges et prières, le cantique 90, brillante étoile du matin en ce temps de l'Avent. Je vous invite à chanter ce cantique de Noël. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « J'envoie devant moi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Que chacun de nous ici entende cet appel à préparer ses chemins. Nous nous remettons devant Dieu avec cette prière de sœur Myriam, diaconesse. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Aie pitié de nous ». Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter et recevoir le pardon. Dès que Jésus remonta de l'eau du Jourdain, le ciel s'ouvrit et l'Esprit, tel une colombe, descendit sur lui. Une voix retentit et dit « Tu es mon enfant bien-aimé, c'est en toi que j'ai mis ma joie, que cette parole soit renouvelée en chacun de vous. » Voilà, je vous invite à vous asseoir et je vais accueillir maintenant François pour ce moment si important dans sa vie. Cher François, tu as exprimé le souhait d'être baptisé il y a déjà un certain temps. Nous avons cheminé petit à petit et tu as pris tes marques dans cette église. Et le moment est venu aujourd'hui de recevoir le signe visible de la grâce de Dieu. Tu as choisi une confession de foi, un texte de confession de foi, pour ce qu'il représente pour toi, pour ce qu'il vient rejoindre dans ta propre foi intime. Je t'invite à le lire pour nous.
Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Malgré mes doutes, les limites et les questionnements de ma raison, les révoltes de mon cœur, je crois en Dieu. Je crois qu'il œuvre en nous par son esprit pour nous apporter réconciliation et espérance. J'ai confiance en lui. Dieu nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal, pour aimer et servir les autres. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, venu nous apporter lumière et salut. Je crois en son chemin de vérité et de vie. Dans un monde déchiré par la guerre, par la haine, par la peur, Jésus-Christ a partagé avec nous le lien indestructible d'une humanité commune. Je crois en la vie qui ne cessera pas. Je crois en Dieu.
Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. François, tu vas être baptisé au nom du Père qui te donne le souffle de vie. Tu vas être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité, et qui t'appelle à son service. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit, qui a fait naître en toi la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, de l'eau ordinaire, mais avec les paroles qui vont être dites, cette eau devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour chacun, pour toute personne, pour les petits-enfants comme pour les adultes. Et aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir partager cette conviction avec François. François, veux-tu recevoir le baptême ?
Oui.
Alors je vais demander à ta fille et à tes deux fils de venir te rejoindre pour être les témoins particuliers de ce moment si important pour toi et pour ta famille. François, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. François, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, je ne vais pas porter François dans l'assemblée, rassurez-vous. Mais je vais, voilà, vous recommander ce que nous recommandons à tous les fidèles qui accueillent un nouveau frère dans la communauté. Voici François. Par ce baptême, nous affirmons qu'il est enfant de Dieu. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, le secours de votre prière, le soutien de votre amitié, et vous serez là pour lui chaque fois qu'il aura besoin. Vous serez ainsi pour lui la preuve que votre foi est une foi en acte. Si jamais il venait à se séparer de la communauté des chrétiens, vous affirmerez qu'il peut toujours, à tout moment, y retrouver sa place. Et ce sera ainsi le signe de l'amour inconditionnel de Dieu pour tous ses enfants. Alors maintenant, je vais vous inviter, pour celles et ceux qui le souhaitent, à venir donner l'accolade à François, qui fait partie maintenant de cette grande famille. Et pendant que vous pouvez accueillir François, je vous invite, pour celles et ceux qui sont à leur place, à chanter le cantique 204, « Seigneur, dirige et sanctifie ». Je vous invite à vous asseoir. Seigneur, Ce matin, François a partagé avec nous ce texte d'Ésaïe. Dans Ésaïe 53, les versets 1 à 4, « Qui a cru ce qui nous était annoncé ? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé, et nous, nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Je vous invite à chanter avec les psautiers français le choral 40 qui est tout à la fin du psautier. Vous avez un petit livret avec le choral 40. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Sarah, merci. Nous prions ensemble. Éternel, en ce temps de l'Avent, que ta lumière vienne éclairer nos esprits et nos cœurs, et que nous puissions avancer sur tes chemins avec l'espérance que tu veux pour nous. Que les mots de la Bible nous aident à trouver notre voie dans les ténèbres de ce monde. Amen.
La tradition des églises chrétiennes fait recommencer l'année par le temps de l'Avent et de Noël, comme si l'histoire du salut voulu par Dieu s'écrivait dans l'ordre chronologique des événements. Mais le temps biblique est un temps à rebours, qui se lit et se relit sans cesse en commençant par la fin. Pour raconter l'histoire du salut, il faut l'avoir reconnue au fil des âges, et il faut que le récit prenne en charge les transformations que ce salut a apportées aux situations qui nécessitaient un salut. Il faut donc s'être senti sauvé pour accéder à cette relecture et raconter à son tour une histoire comme si on pouvait en faire la chronologie. Ne faisons-nous pas cette expérience chacun et chacune dans nos vies quand nous voulons raconter quelque chose de notre vie spirituelle? Ne repartons-nous pas d'un événement fondateur pour raconter le récit d'une conversion qui apparaît désormais cohérente chronologiquement, alors qu'au moment où nous vivions l'événement, nous ne pouvions savoir qu'il serait fondateur? Ainsi, pour toute personne qui veut dire sa foi, il en est souvent de même. Il faut remonter le temps jusqu'à la racine de ce que nous estimons être la source de notre salut. Dans notre Église chrétienne, nous remontons le cours du temps à travers des textes de la Bible que nous remettons dans un ordre cohérent pour notre compréhension de l'histoire du salut. Mais y a-t-il un temps linéaire de notre relation à Dieu? Jésus vient-il véritablement comme accomplissement du salut qu'annonçaient les prophètes? N'est-ce pas une reconstruction? Et qu'en serait-il pour les contemporains des prophètes alors? Quel serait leur salut puisque Jésus n'était pas encore advenu? Dieu les aurait-il laissés à leur triste sort? La lecture du prophète Ésaïe nous montre le contraire. C'est d'ailleurs un livre essentiel à lire absolument pour comprendre la théologie que Jésus lui-même devait avoir en tête au moment où il prêchait. Parce que c'est le premier des livres prophétiques selon la foi hébraïque, ce qui montre son importance. Dans son livre, le livre d'Isaïe ou l'histoire au prisme de la prophétie, Anne-Marie Pelletier écrit « Ce texte qui comporte tant de beaux passages et qui sait fort bien parler de consolation est aussi constamment aux prises avec le drame. Ainsi, dès les premiers chapitres, se pressent les images de guerre, de villes détruites, de campagnes dévastées, de populations fuyant l'ennemi, le tout accompagné de l'annonce de nouveaux jours d'épreuves et d'épouvantes. Et plus loin, elle écrit, il s'agit pour le peuple de Dieu de survivre dans un monde passablement dangereux où des voisins rapaces déplacent les frontières et les populations au gré de leurs projets politiques. Évidemment, ces mots résonnent en nous et dans notre raison à cause de l'actualité internationale. Et nous voyons là une proximité étonnante avec des textes si anciens. Et tant que nous sommes dans cette situation dangereuse dans laquelle nous ignorons comment les grands équilibres géopolitiques vont tenir, et quel événement viendra apporter le climat de paix que nous attendons, nous ne savons comment raconter cette histoire du salut qui vient dans le monde. Le livre d'Ésaïe, dans sa deuxième grande partie, qui date peut-être de l'exil et dont on ne sait pas si elle a été rédigée alors que le petit reste était encore à Babylone ou bien de retour à Jérusalem, décrit un serviteur qui apporte le salut au peuple de Dieu alors que personne ne reconnaît l'importance qu'il a. Il est semblable à celui dont on se détourne, dit le texte d'Ésaïe. Les commentateurs ont cherché à identifier ce serviteur, sans succès. Il peut s'agir du peuple d'Israël lui-même, serviteur de Dieu, humilié par l'exil et qui a interprété cette terrible situation comme la punition de Dieu, mais il peut s'agir aussi d'un des rois qui ont vécu la période troublée de l'exil. Mais il semble que, bien qu'aucune des descriptions du serviteur souffrant ne permette de lui assigner l'identité d'un personnage historique, le personnage souffrant est au service de Dieu qu'Ésaïe dépeint. Il semble bien que ce soit un archétype de celui par qui le salut arrive. Et c'est cet archétype qu'il convient de déchiffrer, sans se demander à quelle personne humaine particulière dans l'histoire cette figure serait attachée. Un archétype sert à comprendre et à voir comment l'on peut incarner une idée, comment on peut incarner une éthique de vie particulière. L'archétype du serviteur souffrant a été rapproché de la figure de Jésus mort sur la croix pour avoir porté les péchés des humains. Tel un bouc émissaire qui débarrasse le peuple entier de ses péchés en les prenant sur lui, comme dans la grande tradition du judaïsme. Dans cette perspective, le livre d'Ésaïe ne vaut plus que comme un texte annonçant la venue de Jésus dans le monde. Et c'est là que la relecture est fautive, comme si le temps d'Ésaïe n'existait que pour préparer le temps de Jésus, alors qu'à cette époque déjà, les croyants attendaient et reconnaissaient le salut de Dieu dans leur vie. Et heureusement, ils n'ont pas eu à attendre que Jésus paraisse pour que Dieu vienne les aider et leur apporter son secours et sa paix. Il est sans doute possible de croire à la prophétie de cette façon. Beaucoup le croient d'ailleurs, mais cela pose le problème de l'actualité du texte d'Ésaïe. Le contexte de l'exil pour les lecteurs actuels du livre d'Ésaïe a bien un rapport avec ce fameux serviteur souffrant qui est déjà venu et dont on reconnaît le statut après coup. En fait, ce sont nos souffrances, dit le texte d'Ésaïe, qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. L'auteur parle d'une expérience vécue et n'attend pas la venue de Jésus pour comprendre la situation de ce serviteur. Il est possible de comprendre la figure du serviteur souffrant en dehors d'une histoire chronologiquement linéaire, mais comme une parabole, disant l'espérance en un Dieu qui jamais n'abandonne son peuple dans l'adversité et qui lui donne la force et le courage d'assumer un rôle particulier au milieu des autres peuples et au milieu des conflits qui les opposent. Nombreux sont les textes prophétiques qui dénoncent l'infidélité du peuple de Dieu et qui expliquent que ce peuple est dans la terreur de la guerre à cause de son attitude par rapport à Dieu. Ce sont des textes qui mettent en avant une théologie de la rétribution et qui comprennent la relation à Dieu comme celle d'un fils avec un père qui aime bien et donc châtie bien. Mais dans Ésaïe, à plusieurs reprises, cette théologie de la rétribution est remise en question. Et Dieu change de visage, si je puis dire. Du père fouettard qui enseigne par le châtiment, il devient bien souvent le Dieu qui aime et qui soutient de toute éternité celui qui met sa foi en lui. Et même les nations qui ne le connaissent pas encore, mais qu'il l'aime et à qui il apporte son salut. C'est ainsi que le serviteur souffrant entre en scène comme figure d'espérance et d'élection. Là où il semble n'y avoir que misère et désolation, quelqu'un se lève et fait la volonté de Dieu. C'est lui qui porte les souffrances et les douleurs de tout un peuple alors qu'il est d'abord vu comme un fautif qui a reçu une leçon de la part de Dieu. Le peuple s'aperçoit qu'en fait, il est juste et il assume la faute de tous les autres pour que tous les autres ne soient pas écrasés par lui. Le serviteur souffrant n'est donc pas un sacrifice expiatoire, choisi par Dieu au hasard. Il n'est pas comme le bouc émissaire. Il n'est pas sacrifié par Dieu. Le serviteur souffrant se met lui-même au service du salut de tous par amour et dans sa volonté propre et dans sa foi propre. Au milieu du mal et de la violence de tous, il décide de ne pas céder à la violence. Et c'est précisément pour cela qu'il se retrouve écrasé par la violence de tous. Le serviteur souffrant est révélateur du péché parce qu'il refuse d'y succomber lui-même. Il échappe à la violence et à la logique du mal, et en cela il s'expose lui-même comme fragile et vulnérable. Il ne cherche pas la mort, comme on l'a dit trop souvent, dans une théologie qui voudrait, dans un romantisme incroyable, vouloir que les gens aillent à la mort avec une espèce de passion qui nous dépasse tous. Il ne cherche pas le martyre, mais il tient bon dans sa foi, et c'est ainsi qu'il devient un signe pour tous. Alors, dans cette perspective, on peut dire à juste titre que Jésus a été inspiré par la figure du serviteur souffrant. Il a reçu la force de la foi nécessaire pour ne pas fléchir quand il s'agissait d'être juste seul contre tous, seul abandonné de tous. Quand ses disciples étaient partis, que plus personne ne le soutenait, et qu'il fallait qu'il dise quand même une vérité que personne ne voulait entendre, qu'il fallait qu'il prêche une théologie de la liberté et de l'amour de Dieu alors que autour de lui on préférait justement l'image du père Fouettard. Il ne s'est pas renié lui-même et a ainsi révélé la justice et la paix que Dieu veut pour nous. Quand Ésaïe dit qu'il est comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, il le compare à cet animal qui n'a jamais fait de mal, qui représente l'inverse du mal. Comment relire aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent, les mots d'Ésaïe ? Peut-être comme un rappel de ce qui inspira Jésus lui-même et lui valut le titre de Fils de Dieu. En effet, être enfant de Dieu, c'est vouloir sortir de la spirale du mal, quitte à s'exposer soi-même à l'incompréhension, à l'injustice et parfois à la violence. C'est adopter une autre logique que la loi du talion et accepter de ne pas gagner, de ne pas être le plus fort, mais chercher à être un peu plus juste. Notre société et plus largement notre monde est de plus en plus binaire entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, ceux qui ont raison et ceux qui n'ont rien compris, ceux qui possèdent et ceux à qui l'on prend. La notion de peuple elle-même est maintenant porteuse de l'idéologie des gagnants qui ne voient que leur intérêt personnel sans penser au partage. Alors, on invoque le peuple qui, dans la Bible, est une notion hautement solidaire, comme tout à coup une notion où chacun défend ses propres intérêts. Partout, c'est la loi du plus fort qui est mise en avant, et ceux qui ne la suivent pas sont des imbéciles. Et avant, sans penser au bien commun, on met plutôt ce qui permet d'être le plus grand, le plus impressionnant. Chacun dit moi aussi je veux gagner. Pourtant, il y a partout celles et ceux qui ne font pas de bruit et qui ne cherchent pas cela et qui travaillent pour que tous aient plus de bonheur, plus de justice sociale et plus de paix. Et sans doute dans cette assemblée, il y en a beaucoup qui pensent ainsi. Ils sont porteurs de paix au milieu des guerres, porteurs d'intelligence au milieu de la confusion, porteurs de vérité au milieu d'une post-vérité qui emprunte toutes les voies de communication pour faire gagner le mensonge. Toutes ces personnes sont porteuses d'espérance au milieu du chaos qui sans cesse menace. Ces hommes et ces femmes exercent des métiers divers, agissent dans des milieux associatifs ou au sein de leur cercle familier. Souvent, ils et elles assument de porter le mal qui les environne et d'en subir les conséquences avec courage pour que les autres vivent un peu mieux. Ce sont les bienheureux du Sermon sur la montagne, les serviteurs souffrants d'Ésaïe, les Christes modernes qui engagent leur vie dans des voies où il n'y a rien à gagner pour soi, mais tout à sauver pour tous. C'est un de ces bienheureux que nous fêterons à Noël, et c'est par ce temps de l'avant de l'attente du serviteur souffrant que l'année chrétienne liturgique recommence. Il est une de ces racines dont parle Ésaïe, celle qui porte le mal pour tous, mais qui fait rejaillir l'espoir au milieu du désert, celle qui sort d'une terre assoiffée, celle qui ne se voit pas, parce qu'elles sont insignifiantes, ces racines, aux yeux des forts. Pourtant, c'est de ces racines que naissent tout espoir et tout possible pour l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un temps nouveau à plusieurs titres. D'abord parce que ce matin, un homme a choisi d'accepter de rejoindre le peuple des enfants de Dieu, appelé dans sa foi, pas pour être servi, mais pour servir, pas pour être chez les gagnants, mais pour que personne ne soit perdu. Pas pour affirmer son identité, mais pour appartenir à une famille de croyants solidaires. Et puis c'est aussi le commencement d'une année nouvelle pour notre communauté, une année dans laquelle chacun peut décider d'être engagé dans la préparation des chemins du règne de Dieu. Et cela passe par notre vie tout entière, ce que nous choisissons de dire, de faire, d'être, et ce n'est pas facile. Nous serons sans doute incompris parce que nous mettons nos priorités là où il n'est pas commun de le faire. Nous parierons sur un avenir que beaucoup préfèrent ne pas espérer pour ne pas avoir à le construire, c'est plus simple. Nous espérerons là où les prophètes de malheur diront qu'il n'y a rien à espérer. Nous serons honnêtes là où d'autres se contenteront d'être cyniques. Nous serons serviteurs là où d'autres se prendront pour des chefs. Nous serons méprisés peut-être et ne serons sans doute pas dans le confort d'une vie centrée sur soi. Mais nous serons heureux aux yeux de Dieu, heureux du bonheur des béatitudes et éternellement vivants. Les temps que nous traversons sont remplis de ténèbres et l'épuisement nous guette sans doute de voir l'avenir si trouble. Mais au service d'une parole de vie, Dieu nous donnera les forces pour espérer sans cesse et construire un avenir pour ce monde-là, tel qu'il est, avec ce mal et ses déchirures. Elles sont là les racines de l'espérance. Dans une terre assoiffée, oui, elle semble sans apparence et si impuissante comme nous nous sentons si souvent. Mais à nous de les reconnaître, ces racines, en nous, dans notre courage, dans nos propres forces, dans notre propre espérance. Plaçons notre foi en elles. Amen.
Je vous invite à chanter ensemble le choral numéro 1 qui est tout à la fin des psautiers français dans le même livret que le choral 40, donc le choral 1, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Voilà, je vais inviter Jean-François, notre trésorier au Conseil presbytéral, à me rejoindre pour partager avec nous les annonces de ce matin.
Merci Béatrice. Bonjour à toutes et à tous, ici et à distance. Tout d'abord, merci François de nous avoir permis ce magnifique partage ce matin. Et bienvenue dans la communauté. Alors, quelques annonces. Nous allons avoir une semaine riche en réflexions avec Béatrice. Dès ce matin, d'ailleurs, à midi, vous êtes conviés à déjeuner, puis à réfléchir avec Béatrice sur le thème « Accompagner, écouter et consoler ». Mardi, nous avons le dernier atelier Théophile sur le thème « Naissance et mort, où sont nos choix ?» avec toujours notre pasteur Béatrice et Jean-Pierre Clairaut, professeur émérite en philosophie. Mercredi, à nouveau, Béatrice sera sur le pont avec le groupe des jeunes adultes sur un thème qui n'a pas été inspiré par le trésorier, c'est venu de même. Le thème, c'est le don. Et cela doit vous interpeller, donc j'en profite pour faire un appel aux dons, en remerciant d'ailleurs très chaleureusement et avec beaucoup de gratitude tous ceux qui déjà ont permis à la paroisse de fonctionner jusqu'ici cette année. Mais il nous faut aller jusqu'au bout de l'année et surtout contribuer à la solidarité avec la région. Je rappelle que les dons, c'est la substance en dehors du spirituel qui nous permet de faire fonctionner la paroisse. Notre paroisse, qui est un lieu d'abord d'accueil inconditionnel, qui est aussi un lieu de rencontre et d'échange, de réflexion, comme je viens de le dire, et puis un lieu surtout de transmission de foi. C'est aussi un lieu de solidarité et de fraternité. La semaine dernière, notre présidente Aurore Sagliot-Thébault a évoqué, je crois, les quatre événements festifs que nous allons soutenir cette année, à la fin de l'année, pour notamment les plus précaires, en soutien à des initiatives d'associations, que sont la Clairière, que sont le Foyer de Grenelle, également l'Association des Amis de l'Institut Protestant de Théologie, et puis enfin Noël au Hall. Pour terminer, je vais appeler... Je vous rappelle aussi que troisième dimanche de l'Avent, nous avons un événement tout à fait traditionnel et joyeux dans notre église, c'est le Noël des enfants, donc venez nombreux, parce que c'est toujours un moment magnifique. Souvenez-vous, l'an dernier. C'était Harry Pasteur. Harry Pasteur.
Nous avons fait cette année un pastiche d'une autre grande œuvre que vous reconnaîtrez très très vite quand vous viendrez le 15. Donc on vous attend. Vous
voyez le sens du teasing. Et puis pour terminer, je vais appeler les scouts qui ont une annonce à nous faire et puis je vous souhaite un très bon et joyeux dimanche. Merci.
Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pierre-Louis. Je viens de les scouts de l'oratoire, plus précisément de la troupe. Je suis dans la patrouille des loups et aujourd'hui on a une sortie gâteau et on vend des gâteaux comme le nom le précise et avec cet argent on pourra renouveler notre matériel qui est un peu en mauvais état et ça nous permettra donc de repartir pour faire d'autres camps et soutenir d'autres personnes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et je vous invite maintenant à participer à ce temps d'offrande pour que notre Église continue à annoncer l'espérance dans ce monde qui en a tellement besoin. Merci. Une autre annonce importante, c'est que dimanche, donc le jour où nous fêterons la fête des enfants, donc fêterons Noël avec les enfants, il y aura aussi un événement important pour notre paroisse, puisque la grande sacristie de notre église, qui a été longtemps fermée pour restauration, est réouverte dimanche prochain. Donc venez nombreux aussi pour voir ce magnifique travail qui a été fait par les restaurateurs qui sont venus pour restaurer entièrement cette pièce, et vous allez voir que c'est très très beau. Et donc on va pouvoir inaugurer cette grande sacristie dimanche prochain, donc on vous attend nombreux, et en présence de la mairie de Paris qui sera là ici dans ce temple. Voilà. Et bien sûr, tous ces dons et tout ce que nous faisons pour récolter les dons pour la fondation de l'Oratoire du Louvre permettent la restauration de ce beau temple et de donc tout ce que nous avons en charge ici. Donc merci à vous pour votre participation. Je vous invite à la prière. Éternel, nous voulons te prier aujourd'hui pour François et pour son chemin de foi, pour sa famille et pour tous les services qu'il pourra rendre à ta parole dans cette paroisse ou ailleurs, tous ses engagements qui se présentent devant lui, tout ce qu'il a déjà pris au nom de l'amour du prochain. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour cet Esprit Saint que tu envoies vers ceux qui nous sont confiés. Merci pour cette relation particulière que nous pouvons avoir les uns avec les autres dans notre communauté. Éternel, nous te remettons toutes les familles qui en ce temps de l'Avent pensent particulièrement à leurs proches décédés. Et nous voulons te remettre chacune d'elles. Nous voulons te demander d'être capable de consoler et d'apaiser et d'être auprès de celles et ceux qui se retrouveront seuls à Noël. Donne-nous le souci de chacun autour de nous. Éternel, nous te prions pour toutes les familles qui sont séparées par des pays différents, séparées par un éloignement pour des raisons parfois de mésentente, séparées parce que parfois l'histoire, la grande histoire, fait que les familles ne peuvent plus vivre les unes avec les autres. Nous te demandons, Seigneur, dans ces fractures, de mettre ton esprit afin que ce qui peut être repris le soit grâce à toi. Éternel, nous te prions pour ce pays meurtri qu'est l'Ukraine. Nous avons prié ici même avec un prêtre ukrainien pour la paix, et nous voyons que le temps passe et que la paix n'advient pas. Éternel, inspire toutes celles et ceux qui peuvent faire advenir la paix. Et mets-nous en mémoire toutes celles et ceux qui souffrent de cette guerre depuis si longtemps. Nous te demandons, Seigneur, le courage de pouvoir être artisan de paix dans notre monde. Il y a tant de pays déchirés, tant de situations terribles que les hommes créent eux-mêmes et que souvent nous ne comprenons que très peu. Que cette soif de pouvoir puisse être remplacé par une collaboration humaine, une solidarité universelle. Que tous tes serviteurs souffrants, toutes celles et ceux qui vont porter la justice là où elle n'existe pas, puissent être soutenus. Que nous-mêmes nous devenions, quand il le faut, ces hommes et ces femmes de courage, pour que ta parole fasse son œuvre et fasse régner ta justice et ta paix. Et ensemble, nous te disons ces paroles de confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui fait grâce vous bénit et vous fait entrer dans sa grâce. Amen. Et je vous invite à chanter le dernier répond dans les psautiers français. Merci à Sarah Kim qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et j'invite toutes les personnes qui se rendent à l'initiation au protestantisme après ce culte à se diriger vers le 4 rue de l'Oratoire au deuxième étage et pouvoir commencer à faire chauffer ce que je vous ai rapporté ce matin, mais je n'ai pas pu faire toute la cuisine. Voilà.